12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau.
Place à la critique et place aujourd'hui au manga. Le très beau No Manga No Life sur les pannes d'inspiration d'un mangaka cinquantenaire qui perd ses cheveux et qui s'extasie devant son fils de 3 ans, c'est de Minetaro Mochizuki, et le très poignant Cocon de Machiko Kyo sur des jeunes filles enrôlées au Japon pendant la Seconde Guerre mondiale.
Bonjour Fausto Fazzolo.
Bonjour.
Fondateur de la revue Atom et co-directeur artistique du Festival d'Angoulême, pour débattre ce midi, nous accueillons face à vous Mathieu Pinault. Bonjour.
Bonjour. Bonjour à toutes et à tous.
Rédacteur en chef du magazine Otaku Manga, et c'est votre première avec nous. On est ravis de vous accueillir. Soyez en tout cas tous les deux, tous et toutes, les bienvenus dans les Midi de Culture.
Et on commence avec No Manga No Life de Minetaro Mochizuki aux éditions Le Lézard Noir.
Coco, Tokyo da yo na.
世界は今まで思えたのが思ってたもんとは違った。弱くて何もできないで。Minetaro Mochizuki est un grand mangaka. Il a connu le succès au milieu des années 90 avec Dragon Head, un fantasy d'horreur. Il a poursuivi dans un autre genre, plus lent, plus mélancolique, avec Shizakobe, récompensé en 2017 au Festival d'Angoulême. Mais aujourd'hui, Minetaro Mochizuki n'a plus la cote. Il ne sait plus quoi écrire, il vieillit, il perd ses cheveux, il regarde le mur au lieu de dessiner, ne marche pas droit et s'extasie devant son fils de 3 ans en buvant des smoothies. Alors que faire ? Eh bien, racontez ça, racontez ce quotidien banal où les rêveries journalières révèlent une petite vérité, sans grande portée, c'est vrai. Ici, pas de catastrophe, si ce n'est les contrariétés habituelles et les courtes leçons de sagesse à en tirer. Un manga en forme d'essai autobiographique ou l'inverse, il fallait le faire, Mochizuki l'a fait, mais sous un double à peine fictif, Minezuki. Qu'en avez-vous pensé, Fausto Fazzolo ?
Eh bien, beaucoup de bien. Même si je craignais un peu qu'on tombe effectivement dans l'énième autobiographie un petit peu complaisante, sachant que ce type d'essai-là, en fait, dans le manga, c'est quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement. J'ai souvent coutume de dire que quand un auteur commence à se raconter, c'est parce qu'il n'a pas grand-chose à raconter d'autre que sa propre vie.
Or, là, ce qui est le cas.
Or là, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a fait de cette autobiographie, de cet essai, un véritable manga sur l'attente, en réalité. Sur ces moments, en fait, où il ne se passe pas grand-chose, où lui est dans une sorte de cogitus ininterruptus. Et c'est à partir, justement, de ces moments, de ces interstices de vie où il ne se passe pas grand-chose, que naît finalement l'inspiration. Alors, c'est toujours aussi un petit peu, comment dirais-je, excluant pour le lecteur quand on a affaire à des mangas qui sont censés un petit peu, ou des œuvres de manière générale, ausculter ce fameux processus de création. Parce que forcément, quand nous, on ne crée pas grand-chose, on se sent un petit peu en dehors de la réflexion. Or là, il a une manière, on va dire, bien à lui de nous inclure dans, justement, sa réflexion sur son processus de création. Et il le démystifie aussi d'une certaine manière. On a souvent tendance un petit peu à fantasmer ce processus-là chez les créateurs, en se disant, oulala, ça part effectivement d'une très grande réflexion, d'une immense expérience personnelle. Or là, on se rend compte en fait que c'est dans les petits riens en fait que naît son inspiration.
Mathieu Pinault, est-ce que vous partagez cet enthousiasme ?
Totalement, et en fait, ce que je trouve vraiment très intéressant avec ce titre, qui est idéal pour des personnes qui ne connaissent pas le manga à l'origine...
Comme moi, par exemple.
C'est que on revient aux sources mêmes du manga, de l'étymologie du mot manga, qui veut dire image dérisoire. Et à l'époque, quand Hokusai a créé ce terme, c'était pour bien distinguer les estampes finies à produits sur lesquels il avait travaillé, il avait beaucoup réfléchi en amont qu'il voulait vendre. Et ce qu'il appelait le manga, c'était ses carnets de croquis, qui étaient destinés à d'autres dessinateurs pour qu'ils puissent s'entraîner et faire la main. Donc c'était pas des images finies, c'était des images dérisoires. Et là, Mochizuki, au lieu de chercher justement à faire une grande histoire, réfléchir beaucoup en amont, s'inspire de choses complètement dérisoires et réussit à créer des petites histoires, des petits riens, mais qu'on va suivre avec attention en disant « Ah mais c'est fou !» Depuis le fait qu'il nous raconte que une fois il a acheté une paire de chaussures sur un coup de tête, pendant 6 pages, on va suivre cette aventure et ça va être, ma foi, fort intéressant.
Alors qu'est-ce qui fait, selon vous, que ça fonctionne, parce que moi j'ai aussi beaucoup aimé ce manga, mais il y a des moments j'étais à deux doigts de me dire, mais enfin, à quoi bon ? Enfin, j'ai eu du mal à élucider ce mystère qui faisait que je me disais à la fois ça sert à rien et en même temps je ne peux pas m'en détacher. Fausto Fazulo.
Je pense qu'il y a déjà le dessin aussi de Mochizuki. Je pense que c'est quelqu'un qui a un trait effectivement très accessible, notamment pour ceux qui ne sont pas forcément coutumiers du manga. C'est un trait d'ailleurs qui a beaucoup évolué. Hein. Comme vous l'avez dit très justement, en France, on lit Mochizuki maintenant depuis de nombreuses années et donc on a pu voir évoluer ce trait qui aujourd'hui est vraiment une ligne parfaitement claire, très précise, qui est à mon sens en fait oui, l'expression idéale de son fétichisme. Quand tu parlais, Mathieu, de ce passage sur les chaussures, moi c'est quelque chose par exemple que j'avais remarqué depuis longtemps chez lui, c'est la manière dont il dessinait les pieds, dont il cadrait parfois ses personnages, voilà, sur des plans rapprochés jambes. Et c'est vrai que avant d'avoir droit à cette explication là dans nos mangas No Life, je me posais un petit peu la question. Et c'est vrai que ce fétichisme qui nous raconte cet épisode des chaussures dans un train à Chicago est hyper éloquent parce qu'il commence à réfléchir à la personne qui a porté ses chaussures, à l'usure du cuir, à la manière dont cette personne cire ses chaussures aussi. Et donc là, en fait, il nous raconte une histoire à partir d'une extrapolation d'un regard, c'est-à-dire son regard sur la paire de chaussures d'un quidam qu'il avait croisé dans un métro à Chicago. Donc il y a aussi cette capacité à extrapoler des petits détails du quotidien et à les fantasmer. Et aussi ce trait qui est d'une précision redoutable et qui est, comme je le disais, très séduisant pour des personnes qui peuvent être un petit peu en dehors et un peu éloignées du style manga.
Et l'autre
même chose
raison,
pour vous, Mathieu Pinon. Oui,
c'est que l'avatar de Mochizuki, donc Minezuki dans le manga, est protéiforme au sens où on a à la fois un auteur qui va parfois s'interroger sur justement ses pannes d'inspiration, mais on a aussi un père de famille qui va parler de comment ça se passe avec son fils, qui à un moment va faire une allergie parce qu'il lui a donné un aliment qui ne convenait pas. C'est aussi un mari qui a une femme qui est par exemple obsédée par les coupes de cheveux bien rasées. Elle adore tondre les cheveux. C'est également un être humain qui s'intéresse aux objets. Là, on a parlé des chaussures. Il y a un moment, tout un délire sur un stylo. Et le fait qu'on ait un stylo sur la poche pectorale de sa chemise, tout de suite, on devient un autre homme par rapport à ça. Et donc, tout ça fait que c'est déjà très intéressant parce que de petits riens, on change. Ce n'est jamais les mêmes petits riens qui vont être racontés. Donc, ça donne cette variation sur le même thème. Et d'un autre côté, également, pour ceux qui s'intéressent au dessin, il y a une véritable recherche graphique. Là, on parlait justement, Fausto expliquait les chaussures qui sont dessinées avec un soin quasiment maniaque. Le stylo plume va être dessiné, mais vraiment de manière très très réaliste. Il y a vraiment, de la part de Mochizuki, même si quelque part ça peut paraître complètement futile, une recherche graphique qu'il n'aurait peut-être pas pu accomplir.
Voilà, j'ai les chaussures là.
Il n'aurait pas pu accomplir dans une histoire plus sérieuse. Donc il y a véritablement un double exercice de style, aussi bien sur le fond, raconter du rien, et sur la forme, le raconter de manière la plus réaliste possible.
Mais alors ce que vous dites tous les deux, c'est qu'en fait il raconte des riens, il va extrapoler à partir de ça, mais on est quand même d'accord qu'on, même si ça s'appelle, on parle d'essai autobiographique, c'est pas un essai sur le processus créatif, il est pas là à nous donner des leçons en disant voilà, quand on ne sait pas quoi faire, et ben on a qu'à dessiner sur rien, parler de rien et là on va en tirer des grandes vérités sur le monde. Il y a pas quand même une puissance philosophique de cette dimension-là, Fausto ?
Non, il désamorce justement là, il désamorce ce fantasme du processus créatif. Déjà, il se ramène vraiment à un auteur, enfin il le dit constamment, hein, les histoires commencent par ça.
Je gagne chichon, voilà, ma croûte, en dessinant des mangas.
Voilà, c'est ça. Il revient.
Oui, il essaie de dire ça d'ailleurs. Oui.
Voilà, il se fait presque passer comme une sorte de prolétaire, une sorte d'artisan qui a un petit peu du mal, qui doit justement répondre à certaines commandes de ses éditeurs et qui vit comme il peut. Et c'est ça justement qui est assez intéressant. C'est sa manière de prendre du recul, cette autodérision, sans être justement dans la complaisance et dans le côté un peu doloriste du type je suis un auteur qui a du mal, je n'arrive pas à avoir du succès, j'ai du mal à gagner ma vie. Tombe jamais justement dans ce travers-là.
Pour ceux qui ne connaîtraient pas Mochizuki, comment on peut le présenter, Mathieu ? Qu'est-ce qu'on peut dire de lui pour ceux qui ne le connaissent pas du tout ?
Alors, Fausto l'a très très bien résumé en début d'émission. C'est vraiment un auteur qui a connu un grand succès avec des mangas d'horreur au début. Donc, il y a eu La Dame de la Chambre Close qui a été un manga en un tome. Et ensuite, il a fait un autre truc qui s'appelle Dragon Head, qui est vraiment...
C'est la musique qu'on a entendue au début, ça a été adapté.
Qui est une espèce de manga catastrophe où on suit trois adolescents qui sont dans un train. Le train rentre dans un tunnel. Le tunnel se retrouve bouché et donc nos trois adolescents vont devoir sortir. C'est très claustrophobe au début, hein. Vraiment, on est enfermé avec eux. Quand ils sortent, ils vont découvrir que le tremblement de terre est dû à je n'en dis pas plus pour ne pas gâcher le plaisir de la lecture. Et au fur et à mesure de son avancée artistique, il a choisi d'aller vers une espèce d'épure graphique et également au niveau des histoires. Et moi, j'aime bien le comparer à Ozu, au sens où Ozu joue beaucoup sur les chants contre chants et tout est marqué sur les expressions faciales de ces comédiens qui ne bougent pas beaucoup. Mochizuki, lui, ne joue pas trop sur les visages, mais a beaucoup joué sur les expressions corporelles. Et vraiment, un personnage penché un peu en avant, un personnage agenouillé, ou l'expression de surprise, c'est quelque chose qu'il cherche vraiment à atteindre au maximum pour qu'en un minimum de cases, on soit au plus près des personnages. Donc je pense que c'est vraiment ça. Mochizuki, je le définirais moi comme un mangaka de la posture. Alors maintenant, je ne sais pas ce qu'en pense Fausto.
Oui, je suis assez d'accord. Là où un insert, par exemple, chez un autre auteur pourrait avoir une fonction, on va dire, très minimale, chez lui, un insert, un plan sur des mains, sur des pieds, une paire de chaussures, la marque d'une paire de chaussures va raconter quelque chose de la personnalité, justement, de son possesseur.
Est-ce qu'on peut dire qu'il a révolutionné le manga, qu'il a apporté quelque chose qu'on n'avait jamais vu ailleurs et que, bon, ben voilà, c'est assez connu dans le monde du manga qu'il était en perte de vitesse?
J'irais pas jusqu'à dire qu'il a révolutionné le médium. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, j'ai un peu la sensation qu'il a une place assez à part. C'est pas une superstar au Japon, il est très apprécié en France, mais justement, je pense que son côté un peu inclassable le rend difficilement saisissable pour les lecteurs japonais, qui peuvent être parfois assez conservateurs dans leur lecture, et qui du coup ne savent pas trop où ranger Mochizuki, qui a un style un petit peu américanisé aussi d'une certaine façon. Quand on le lit, on pense à quelqu'un comme Adrian Tomine, par exemple, qui par ailleurs avait fait un essai qui s'appelle La solitude du marathonien de la bande dessinée, qui rappelle un petit peu nos Manga No Life. On pense à Daniel Close, on pense à Charles Burns, voilà, on pense à tous ces Américains indépendants.
Avec un ancrage très, très reconnaissable.
Voilà, qui ont cette ligne claire très reconnaissable. Donc je ne suis pas certain, en fait, qu'il ait ce statut d'auteur révolutionnaire au Japon. Et en Occident, je pense que c'est quelqu'un qui compte, et notamment en France, après, de là à le surclasser par rapport à ses camarades, je ne sais pas.
Je pense que, parce que justement, il est sur cette marge par rapport à ce qu'attendent les lecteurs japonais, ça l'aide à mieux conquérir le marché français. On pourrait un peu reprendre l'exemple de Taniguchi, qui n'était pas du tout connu au Japon, mais qui a vraiment été apprécié par les lecteurs occidentaux. Je pense que Mochizuki, bien malgré lui, se retrouve un petit peu dans cette veine, et ce qui fait que les lecteurs occidentaux auront plus de facilité à s'intégrer à son univers, parce qu'il se rapproche beaucoup de l'univers des comics indépendants, que du manga stricto sensu.
Alors on dit, moi j'ai lu sur Mochizuki, son style, enfin qu'il s'était distingué par son exploration des tréfonds de l'âme humaine, la dimension psychologique, la noirceur. Est-ce que c'est un peu un lieu commun de dire ça? Parce que dans nos mangas, nos life, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement on sent toute cette angoisse-là, tout le doute, l'attente dont vous avez parlé, Fausto et Mathieu, mais en même temps il y a énormément d'humour. C'est-à-dire que c'est vraiment, on n'est pas dans
très pince sans rien.
Oui, très pince, mais on n'est pas dans le trou de l'angoisse non plus.
Non, je pense que c'était surtout valable avec ses œuvres des débuts, en fait, en réalité, où là, il avait d'ailleurs un dessin qui était beaucoup plus expressif, expressionniste même d'une certaine manière, et que là aujourd'hui, effectivement, il travaille plus sur la soustraction, sur l'abstraction, même parfois, sur l'ellipse beaucoup. De fait, c'est plus au lecteur, en fait, à reconstituer le puzzle des émotions. Alors qu'avant, effectivement, il était plus dans la démonstration, mais il était plus jeune aussi. Je pense qu'il savait peut-être moins là où il voulait aller. Il était plus les deux pieds dans l'industrie, alors que là, on sent qu'il a à la fois un pied dans l'industrie du manga, et puis un autre pied qu'il essaye de déplacer un peu là où bon lui semble. Et c'est peut-être un petit peu compliqué de se situer, et c'est ce que raconte d'ailleurs nos Manga No Life.
Mathieu, est-ce que vous attendez c'est le premier volume, est-ce que vous attendez le second?
Avec grande impatience, parce que parmi tous ces petits riens, il y a quand même des questions qui ont vraiment résonné en moi.
Alors, dites-nous lesquelles, par exemple, parce qu'on a beaucoup parlé des chaussures,
alors, tout simplement,
et de l'allergie de l'enfant.
Voilà, moi j'ai une petite fille de 15 mois qui ne peut pas aller au lit sans avoir sa peluche dinosaure, et il s'avère que le fils de 3 ans de Mochizuki, lui, ne peut pas aller au lit sans avoir une tablette.
Et alors, il regarde pas la tablette.
Il regarde pas la tablette. Non, c'est l'objet tablette qu'il sert contre lui comme un doudou. Et à partir de là, se pose toute une réflexion sur le rapport de cette toute jeune génération au numérique, au digital. Et effectivement, en tant que père, je m'y retrouve, mais aussi en tant que personne qui a connu cette évolution du numérique, qui voit comment elle prend de plus en plus de place auprès des jeunes des années 2000, des années 2010 et maintenant des années 2020. Je trouve que d'un petit rien, d'une petite anecdote familiale, on peut vraiment se retrouver sur une réflexion qui concerne aussi bien les Japonais que les Français, que les Américains.
Vous aussi, Fausto, vous attendez le volume 2?
Oui, oui, évidemment. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas du tout là où ça va nous mener, mais on est prêt à le suivre parce qu'en fait, on adore justement tous les petits riens de Mochizuki.
Oui, et puis surtout, on se demande, comme il n'y a pas d'histoire, vraiment, il faut le dire, mais que c'est des scénettes du quotidien, en fait, il n'y aura pas de fin, en fait. Enfin, on se demande, du coup, il n'y aura pas de finale, de résolution, il n'y a pas de problème.
Ah bah, de toute façon, il n'y a aucune résolution possible, aucune résolution annoncée, et je pense que le manga joue aussi là-dessus.
No Manga No Life de Minetaro Mochizuki se traduit de traduction de Constant Voisin et c'est aux éditions Le Lézard Noir.
12h-13h30, les midis de culture, Géraldine Mosna-Savoy, Nicolas Herbeau.
Et nous parlons à présent de Cocon de Machiko Kiyo paru aux éditions Imho.
Nagasaki, Nagasaki, Minami no Machi yo.
La Seconde Guerre mondiale s'achève, mais l'escadron Imeyuri reste mobilisé. Cet escadron, c'est un groupe de jeunes japonaises enrôlées comme infirmières à Okinawa pour servir le personnel médical et surtout pour servir le bien du pays, comme elles ne cessent de le répéter. San, Mayu, Tamaki, Ina et Kanyuri et sa sœur jumelle s'occupent des blessés, nettoient la grotte transformée en hôpital de fortune et transportent les cadavres qui s'accumulent comme les vers qui rongent les plaies. Mais ça, vous ne le découvrez qu'au bout de plusieurs pages, comme un choc. Car la mangaka Machiko Kiyo nous enveloppe d'abord dans un cocon de douceur et de poésie, celui que se créent ces jeunes femmes pour tenir et survivre, pour mieux nous percuter à chaque attaque. Sorti il y a 14 ans au Japon, Cocon est enfin traduit en français. Qu'en avez-vous pensé, Mathieu Pinon ?
Tout simplement, c'est une merveille. C'est vraiment... on a rarement vu des scènes de guerre aussi atroces racontées de manière aussi poétique. On suit vraiment des jeunes filles qui ont des aspirations, qui ont des rêves de jeunes filles, qui se retrouvent bien malgré elles dans cet enfer qu'est la guerre. Alors quand je dis l'enfer de la guerre, c'est on l'a sous toutes ses coutures. Ce n'est pas uniquement le champ de bataille. Je sais qu'il y a une séquence qui m'a particulièrement marqué. C'est le moment où ils vont passer dans une grotte et on se rend compte que tous les membres de l'armée ici et même d'autres Himeyuri qui étaient présentes sont tous morts en s'étant suicidés avec du lait empoisonné plutôt que de vivre le reste. L'escadron Himeyuri a réellement existé. C'est une page tragique de l'histoire japonaise. Il y a quelques survivantes qui ont pu en parler. Et c'est raconté avec beaucoup de poésie, que ce soit dans la forme, enfin dans le fond et dans la forme. Il y a notamment quelques aquarelles absolument splendides qui vont illustrer ça. Et il suffit de voir la couverture. L'image de couverture résume à elle seule ce contraste avec cette jeune fille splendide et en même temps tachée de sang. Donc c'est vraiment un titre qui est formidable. Par contre, que je ne recommanderais pas aux âmes les plus sensibles, parce qu'il y a quelques séquences qui peuvent marquer durablement la rétine.
Fausto, vous avez été... votre rétine a-t-elle été durablement marquée, mais vous pas d'âme sensible.
D'ailleurs, je crois
vous.
Que j'ai encore une planche gravée à la rétine. Non, mais ce que je trouve très intéressant, effectivement, c'est cette dichotomie entre la douceur du dessin, l'aspect un peu fruste, même parfois, un peu jeté, et la violence du récit. C'est vrai qu'on a souvent tendance à se dire que le genre historique appelle un traitement graphique réaliste, voire ultra réaliste. Or là, c'est justement l'approche de Kiyo Machiko, un peu distancié, poétique, qui rend le manga fort, parce que cette distance-là, en fait, n'occulte en rien les atrocités de la guerre. C'est-à-dire qu'elle arrive à nous faire ressentir la dimension de tragédie collective et la dimension de souffrance collective. Le point de vue sur le récit, dans le récit, est assez fragmenté. C'est parfois pas évident, en fait, de s'y retrouver. Il y a quand même quelques moments où on n'arrive pas trop à comprendre là où elle veut en venir. Mais à chaque fois, elle est rattrapée par la force, justement, de son dessin, de ses images. Et elle arrive à nous faire ressentir, justement, cette douleur corporelle. Il y a un aspect organique dans ce manga-là, qui est assez étonnant, parce que effectivement, quand on fait ce qu'on ne devrait pas faire, c'est-à-dire juger un livre à sa couverture, on ne s'attend pas forcément à avoir un contenu aussi agressif, abrasif même, je dirais. Or là, elle arrive à nous cueillir dans des moments assez inattendus. C'est vrai que sa grande force, je pense, réside aussi dans le sens de son découpage, où on peut passer d'une case poétique, contemplative, à une case d'extrême violence. Et elle le fait avec des transitions particulièrement brutales, ce qui rend le manga d'autant plus marquant.
Elle va même nous retourner littéralement, puisqu'il y a une planche dans le chapitre 9 où on doit pivoter le livre, puisque vous avez fait trois bandes horizontales pour qu'on ait vraiment un effet le plus panoramique. Il faut retourner son livre pour avoir la planche au format paysage, et on a les trois bandes horizontales et on retourne à nouveau le livre à 90 degrés pour pouvoir avancer. Donc vraiment, elle n'hésite pas à bouleverser la mise en page pour pouvoir faire rentrer le lecteur de lui-même dans cette horreur.
Qu'est-ce que vous vouliez dire, Fausto, quand vous disiez, voilà, il y a des moments où on ne sait pas trop où elle veut en venir, il y a des récits dans le récit, il y a des transitions qui sont parfois... Est-ce que ce n'est pas volontaire de sa part, justement, de nous faire croire qu'on est dans un environnement de cocon, assez safe, et tout à coup, le choc arrive?
Oui, complètement. Il y a une approche un petit peu impressionniste, c'est-à-dire qu'elle fonctionne par touches. Et c'est vrai que quand on s'attend, on va dire, à une lecture un petit peu linéaire, on peut être surpris, mais justement, ce qui est assez intéressant, c'est que cette surprise là elle dure le temps d'une petite dizaine de pages. Après, très vite, on arrive sur les rails du drame, et là on comprend parfaitement ce qu'elle veut nous dire, notamment à travers cette métaphore du cocon qui nous est explicitée dès le début du livre et qui plane littéralement sur tout le récit, et qui effectivement à la toute fin du bouquin prend sa pleine mesure.
Est-ce qu'on peut véritablement parler d'un manga de guerre ou d'un récit de guerre, Mathieu Pinon, dans la mesure où on n'est pas sur le front directement, mais en arrière du front? C'est la fin de la guerre, il s'agit en fait pour ces jeunes filles après de se sauver, de survivre. Est-ce que c'est, on peut le voir comme ça, comme un document historique, certes qui s'éloigne du réalisme, mais qui se veut quand même sur cette Seconde Guerre mondiale?
Moi, je le vois comme un récit de guerre, au sens où la guerre ne s'est pas uniquement passée sur le front. Ça m'a rappelé un autre manga qui est sorti aux éditions Vega Dupuis, qui s'appelle Peleliu, qui lui aussi va raconter en fait l'histoire de soldats qui sont sur une île où la guerre est finie et les Américains sont pas, et eux, le but, c'est de ne pas se faire choper par les Américains, sinon c'est au mieux l'emprisonnement, au pire la mort.
Et c'est un peu le cas effectivement de la deuxième partie du récit.
C'est vraiment, on se retrouve tout à fait dans ce cadre-là. C'est très marquant de se dire que des jeunes filles ont ainsi été envoyées, non pas au front, mais à la base uniquement pour servir d'infirmière, et ont été prises dans un étau dont elles pouvaient difficilement se sortir. Donc oui, c'est bel et bien un récit de guerre avec des touches de poésie qu'on n'a pas l'habitude d'avoir dans les récits de guerre, puisque Fausto le disait justement, il n'y a pas que graphiquement que généralement on fait très réaliste. On va nous expliquer que c'était tel escadron d'avions.
Là, il n'y a aucune indication.
Mmh. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'il y a aussi une résilience chez ces jeunes femmes, chez ces jeunes filles, qui est très très forte, notamment avec, par exemple, les deux sœurs jumelles. Il y en a une qui, à un moment, subit l'effondrement d'une poutre enflammée sur son dos, a le dos complètement marqué, et les deux de dire « Ah, maintenant, on saura distinguer laquelle et laquelle. » Ou il y en a une autre qui se retrouve aveuglée, qui a perdu la vue, et ses copines font « Elle a de la chance d'avoir perdu la vue, parce que comme ça, elle ne voit pas les charniers que nous rencontrons. » Et elle dit ça, mais vraiment avec un ton très, très optimiste. C'est vraiment cette espèce de résilience qui est là. À tout moment, elles sont persuadées qu'elles vont s'en sortir jusque vers la fin. Et cette petite flamme d'espoir qui vivote malgré tout permet de tenir jusqu'au bout du livre.
Alors justement, il faut peut-être parler quand même de ces personnages, parce qu'il y a quand même un personnage central qui est San, qui est tout le temps avec Mayu, qui est en fait une sorte de... qui est un peu son amie exclusive, sa meilleure amie, comme on en a dans l'adolescence, qui génère à la fois de la jalousie. Je ne sais pas si je dois en révéler plus sur la postface de l'autrice, justement, qui en dit un peu plus.
Qui est assez éclairante, en fait. Ouais.
Voilà, c'est ça. Alors, est-ce que j'en parle ou pas?
Ou peut-être mieux éviter.
Très bien.
Et je conseille même à ceux qui... Alors, une postface, c'est fait pour être lu à la fin, mais je sais que parfois, certaines personnes aiment bien lire la postface.
Non, vraiment, lisez-la à la fin.
Il faut la lire après.
En tout cas, donc sur ce personnage de San et de Mayu, même sur les jeunes filles qui l'entourent, voilà, on nous décrit aussi des jeunes filles qui ont un éveil à l'adolescence, à l'amitié, au sens, qui n'est pas banal, mais qui restent en fait quand même des jeunes filles comme n'importe qui.
Oui, oui, bah en fait, c'est ça qui est très fort dans ce récit-là, c'est qu'on comprend que la guerre n'a pas arrêté justement l'adolescence de ces jeunes filles, n'a pas arrêté leur existence. Elles continuent de penser, elles continuent de rire, elles continuent de s'amuser malgré les bombardements.
De se créer des histoires absurdes,
parfois. De se marrer pour des petits riens. Mm-hmm. C'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir à la fois la guerre qui passe de la toile de fond, en fait, au premier plan du récit. Et il y a cette espèce de bascule qui est faite constamment par Kiyomachiko.
Et moi, j'ai découvert Mathieu. Justement... Je dis le sens français. J'ai découvert Machiko Kyo grâce à ce manga. Alors, pour les plus cinéphiles qui nous écoutent, oui, le pseudonyme vient bien de la comédienne japonaise.
Voilà, c'est ça, parce que je l'ai googlisé ce matin. Je suis tombée sur
une photo
qui a joué dans Rashomon et dans les Contes de la Lune Vague après la pluie, notamment. Elle a fait plus de 100 films. C'est un pseudonyme. Et c'est la première œuvre. Alors, je sais que c'était sous l'impulsion de son directeur éditorial qu'elle s'est intéressée à cette tranche d'histoire. Elle a fait un deuxième manga, Annonay, qui est également sur ce thème. Et depuis, elle a fait trois mangas sur la tragédie de Fukushima. Et je suis par conséquent très très curieux de voir ces titres, j'espère un jour édités en français, pour voir comment elle peut s'intéresser à un événement qui restera marqué dans l'histoire, mais qui est encore très contemporain par rapport à cette tragédie qui a maintenant qui a 80 ans derrière nous.
Est-ce que vous avez lu ses autres mangas, cette mangaka, justement? Enfin, est-ce que c'est typique de son style d'écrire des horreurs avec autant de poésie et tout à coup de nous cueillir aussi violemment?
C'est quelqu'un, en tout cas, qui est dans cette espèce de logique de sonder l'intériorité de ses personnages et de raconter parfois de manière douce le pire. Elle a fait aussi des histoires autour de la tragédie, autour de la pandémie et de la manière dont les Japonais l'avaient vécu. Donc, je pense que ce qu'elle aime, c'est s'attarder sur cette idée d'expérience de la tragédie collective, comme elle l'a fait dans Cocon.
Alors, Cocon sera justement adapté en 2025, à l'été, ce sera pour les 80 ans de la guerre du Pacifique. Merci à tous les deux, Fausto Fazulo, je rappelle, pardon, Cocon, c'est de Machiko Kyo, traduction de Malou Mikolo, c'est aux éditions IMO. Donc je vous remercie maintenant, Fausto Fazulo, merci aussi, Mathieu Pinonge, de vous. Je précise qu'on peut lire Manga que d'histoire aux éditions Larousse, et aussi Histoire du manga moderne, coécrit avec Laurent Lefebvre, c'est aux éditions Inis. Je rappelle aussi qu'aujourd'hui, sur France Culture, sort le premier manga sonore. Il s'appelle Doruido. C'est 5 épisodes de 30 minutes qui racontent les aventures de Aiden, Liv et Aude, des apprentis druides. C'est signé Ellie Oliven et Christophe Ok. Toutes les références et tous les débats sont à retrouver sur le site de France Culture, à la page de l'émission ou sur l'application Radio France.